Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bonjour à tous, d'où on va finalement aborder ce dernier cours qui va vous donner un peu, je dirais, couvrir certains aspects des batteries de solide et vous donner certaines conclusions. Alors, on a couvert déjà pas mal de distance depuis six cours, où on a directement décrit ces différentes activités au niveau de l'interface, au niveau de la tuyauterie d'électrolyte, au niveau de la cathode. Et aujourd'hui, on va s'intéresser finalement à l'assemblage des batteries tout solides. Alors cet assemblage, eh bien, on va regarder en détail ce qui se passe, et notamment au niveau des paramètres nécessaires. Et vous voyez, ce qu'on avait vu déjà dans les cours précédents, c'est qu'il va falloir avoir une pression considérable pour faire en sorte que ces batteries tout solides fonctionnent. Et dans l'aspect pratique, bien sûr, cela n'est pas viable, d'où il va falloir trouver des solutions intermédiaires pour se défaire de cela. Alors bien, il faut abaisser cette pression d'assemblage en cyclage. Si on veut avoir des batteries avec anode de lithium, je dirais que cela est vraiment primordial, nécessaire, de façon à avoir des performances énergétiques supérieures. Et bien sûr aussi, si on veut faire de l'appliqué, il faut regarder les besoins industriels et aller certainement vers des configurations plates. Donc la question qui se pose, c'est finalement quels sont les verrous technologiques pour réussir dans ce domaine. Alors ces verrous technologiques, eh bien, ça va être tout simplement, puisqu'on va faire une batterie, c'est avoir une très bonne synergie entre l'électrode positive, l'électrolyte et l'électrode négative. D'où il va falloir trouver les électrolytes à haute conductivité ionique, et ça, on a passé un cours là-dessus à vous montrer comment on pouvait faire cela. Ensuite, il va falloir des matériaux qui sont très haute stabilité en oxydation et en réduction. Là aussi, on va y revenir un peu sur ce point, et surtout des propriétés mécaniques qui sont compatibles pour ces trois composants de la batterie. Alors c'est la raison pour laquelle effectivement ces propriétés mécaniques vont être relativement importantes, dans lesquelles on va devoir ajuster la dureté des matériaux, c'est-à-dire on va vouloir des matériaux mous. Il va y avoir certains problèmes, certaines difficultés associées à la déformabilité dans ces matériaux, notamment l'expansion en volume, la porosité, et également des pertes de contact liées à une mauvaise interface. Donc pour ce faire, il y a eu quand même pas mal de calculs théoriques ou de simulations qui ont été effectuées pour essayer de voir comment ces paramètres, dont je vous ai mentionné ici, vont influencer finalement la fabrication de ces batteries. Alors vous avez ces trois graphes qui sont relativement complexes peut-être pour vous, mais ce qu'on fait finalement ici, on trace la pression en fonction finalement du rapport ou volumique de la masse de matériaux actifs dans cette électrode. Et le but, c'est bien sûr d'avoir la plus grande masse de matériaux pour avoir la plus haute énergie de ces batteries. Et vous voyez ici qu'on va faire changer, dans ce cas, eh bien, tout simplement le module de Young de ces matériaux ainsi que leur dureté. Et on s'aperçoit que des zones, si on regarde à cette diagonale, les zones vertes sont les zones dans lesquelles on veut travailler, c'est-à-dire on pourra dans ce cas eh bien, obtenir des tout solides avec des pressions relativement faibles. Mais on s'aperçoit qu'en ce cas, bien, les oxydes qu'on a déjà regardés auparavant eh bien, ne seront pas adéquates pour faire cela. En revanche, les argyrodites, on aperçoit déjà, je dirais, un cadran vert qui apparaît dans ce carré, qui montre que là aussi, il y aura des possibilités d'abaisser les pressions à aux alentours de 8 MPa et d'obtenir, je dirais, des composites relativement corrects. Et bien sûr, si on voit des matériaux mous avec des modules de Young de 1 MPa, des duretés de 0,2 MPa, eh bien là, on pourra travailler et effectivement avoir certainement des électrodes pour pouvoir concevoir de faire des accumulateurs avec du lithium métal. D'où, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va tout simplement voir des systèmes qui vont satisfaire ces conditions. Et un des systèmes qu'on va regarder, ce qu'on a déjà étudié, c'est les fameux électrolytes halogénures, qui dans ce cas, eh bien, ont, je dirais, des duretés, je dirais, relativement correctes pour faire cela, avec, bien sûr, il y a la dureté, mais il y a d'autres figures de mérite. Figures de mérite sont la conductivité ionique, et on avait vu que ces matériaux ont des conductivités ioniques qui sont relativement correctes, aux alentours de 1 millisiemens par centimètre. Et également, il y a un autre facteur, très important une fois de plus, qui est tout simplement la stabilité électrochimique. Et on voit que dans ce cas, les halogénures, comme on l'avait déjà vu, sont très stables en oxydation. On va pouvoir aller jusqu'à des potentiels de 4, voire 4,5 volts. Par contre, en réduction, vous apercevez ici qu'ils sont très faibles en réduction et on ne peut pas les utiliser, pas tous du moins, directement avec ou vis-à-vis du lithium métal, raison pour laquelle on va aller vers des électrodes de lithium indium. D'où, définitivement, ce composé, cet halogénure, n'est pas idéal vis-à-vis du lithium. La question est comment s'en affranchir et quelles sont les autres options. Alors, des autres options qu'on a envisagées dans le passé, eh bien, ont été finalement des approches, je dirais, d'engineering. C'est-à-dire comment on va construire, dessiner cet accumulateur. Et dans ce cas, eh bien, puisque cet halogénure n'est pas stable vis-à-vis du lithium, on va créer des structures, des hétérostructures, c'est-à-dire des structures double couche. Et vous allez voir, on va voir cela pas mal dans cet exposé. Et grâce à cela, eh bien, on arrive à modifier l'interface et pouvoir avoir des propriétés relativement correctes. Et on voit effectivement que si on a le cas d'argérodite, on va avoir une tenue en capacité qui va être relativement stable. Par contre, si je fais ce mélange halogénure argérodite, eh bien, je vais avoir une difficulté pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a une réaction qui est, je dirais, déclenchée par la présence du carbone à l'interface. D'où, il faut éliminer ce point trip en y mettant une couche tampon. Et cela, et on peut le faire par des méthodes de dépôt de couches atomiques, méthodes que l'on connaît sous le nom de ALD, ou dans ce cas, eh bien, si on prend tout simplement du triméthylphosphate avec du lithium tertiobutoxalène, on va pouvoir, dans ce cas, faire croître cette couche de lithium 3BO4 à la surface du matériau et obtenir cette fameuse couche tampon. Eh bien, si on fait ça, eh bien, on peut effectivement obtenir de très bonnes performances électrochimiques. Et voyez ici la configuration de cet accumulateur avec les propriétés qui lui sont associées. Et vous voyez qu'en ce cas, on a une très bonne variation du potentiel en fonction de la capacité, et surtout, ce qui est assez relativement impressionnant, c'est qu'on peut atteindre aux alentours de 400 cycles, avec encore, dans ce cas, 83% de la charge. Alors, les courants de 3000 ampères par centimètre carré, les régimes, bien sûr, ne sont pas très élevés, puisqu'on est en train de cycler à du C sur 20, mais tout cela montre qu'on peut résoudre cette difficulté. Alors, cette difficulté, elle peut se résoudre, je dirais, d'une approche engineering, mais elle peut également se résoudre d'un point de vue chimique et en prenant des matériaux qui sont beaucoup plus résistants à la réduction. Et ça, c'est ce qu'a fait un groupe de l'Université de Waterloo, dans laquelle, dans ce cas, ils ont une fois de plus construit une structure bicouche, comme vous pouvez voir ici, dans laquelle vous trouvez ici, dans ce cas, eh bien, le composé, l'halogénure, mais qui cette fois contient pas que de l'indium, du scandium, pour finalement ajuster la réactivité, avec un autre composé qui est l'argérodite dont ils ont modifié également la formule. Et dans ce cas, eh bien là aussi, on peut obtenir, je dirais, des performances relativement conséquentes, bon, à des pressions de 250 MPa. Vous voyez ici, il y a quand même des régimes de 3000 cycles qui ont été obtenus à des cyclages 3C. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire sans ces matériaux. Alors la question qu'on peut dire, est-ce qu'on peut prolonger cette approche? Et ce qu'on voudrait, c'est finalement, pourquoi on ne peut pas utiliser qu'un seul électrolyte halogénure, plutôt qu'une double couche. Mais ça veut dire qu'en ce cas, il va falloir une fois de plus comprendre la chimie et essayer d'améliorer cette chimie du matériau. Eh bien, c'est des recherches qui ont été effectuées, dans lesquelles, ici, vous avez un autre type d'halogénure, où, dans ce cas, eh bien, le chlore a été substitué par du brome. Et si on fait cela, eh bien, regardez ce qui se passe, c'est qu'on va changer considérablement la dureté du matériau. On va l'abaisser, ce qui fait qu'on va avoir des matériaux beaucoup plus déformables qui vont certainement nous permettre de pouvoir cycler à de plus basses pressions. Et effectivement, grâce à ces matériaux, vous voyez qu'en ce cas, regardez, on est, vous voyez le cadran Lambert dont je vous ai mentionné au départ, bon, nous maintenant, on l'a étendu fortement et on est dans le domaine où, effectivement, on va pouvoir réaliser des batteries à basse pression avec, je dirais, des taux de charge d'électrodes qui sont relativement conséquents. Alors ensuite, la question qui se pose, bien sûr, est, dans ce cas, une fois de plus, quelle va être la stabilité de ce matériau à l'oxydation. Et vous voyez qu'ici, eh bien, effectivement, lorsqu'on passe du chlore au brome, on a un certain abaissement, je dirais, de cette stabilité en oxydation, mais on est quand même encore dans les domaines qui sont totalement, je dirais, viables. Donc grâce à ce matériau, eh bien, on va pouvoir cycler à plus basse pression, et effectivement, c'est ce qu'on a pu faire. Et vous regardez ici des résultats qui ont été obtenus en modifiant la pression de cyclage de 100 MPa à 10 MPa, comme indiqué ici. Okay. Et vous voyez qu'en ce cas, on a toujours directement des tenues ou des capacités en rétention qui sont relativement correctes. Et la question qu'on peut se demander, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller en termes de pression? Bien, en utilisant des cellules, je dirais, adéquates pour mesurer les variations de pression, bien, on s'aperçoit que par cette astuce de prendre ce composé, eh bien, on peut, dans ce cas, obtenir des pressions aux alentours de 0,1 mégapascal, ce qui fait qu'on peut, théoriquement, maintenant, cycler des accumulateurs tout solides à des pressions atmosphériques, sans aller avec, je dirais, des charges énormes. Mais bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire quel va être l'effet ou les conséquences sur les figures de mérite. Parce qu'il y en a la pression, mais ce qui est important dans l'accumulateur, c'est comment va-t-il se comporter en puissance, quelle peut être la capacité maximale et sa variation de température. Bien, tous ces résultats sont résumés sur ce transparent, dans lequel vous voyez où on va modifier, dans ce cas, la pression. Et vous voyez qu'avec des régimes de 1C, c'est-à-dire décharge à 1 heure, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, à des régimes de 1 mégapascal, on ne perd pas énormément en termes de puissance. Si on regarde maintenant au niveau de la charge d'électrode, là, effectivement, vous voyez que lorsque je vais augmenter considérablement, c'est-à-dire le nombre de milligrammes par centimètre carré de matériaux d'électrode, effectivement, là, eh bien, le fait de travailler à basse pression va être une certaine pénalité. Et enfin, si on regarde du côté de la température, on s'aperçoit qu'il y a des variations, mais dans ce cas, elles sont relativement légères. Et cela peut dire qu'on peut maintenant assembler ces genres de batteries et faire cycler ça dans des systèmes de type poche aux alentours de 1 bar. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire grâce, je dis, à ces nouveaux matériaux d'électrode. Alors quand je dis nouveaux, ce n'est rien d'autre que des matériaux dans lesquels on a substitué du chlore par du brome, et ainsi de suite. Et il se trouve, bien sûr, que la principale limitation, avec les halogénures, comme on l'avait déjà mentionné, est la conductivité électrique, car on est aux alentours de 1 millisiemens, comparé à 10 millisiemens dans le cas des argyrodites. D'où, à partir de cela, eh bien, est-ce qu'on peut utiliser le lithium métal? Eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'on va pouvoir utiliser le lithium métal. Alors, dans le cas du lithium métal, je vous avais déjà mentionné quelle était la difficulté. Vous voyez que dans le cas du lithium métal, dû au fluage du lithium, eh bien, on ne peut pas utiliser de grande pression. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez passer dans ce cas des pressions relativement importantes, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle des courts-circuits mécaniques. Et il faut travailler dans des pressions à 5 mégapascal, voire en dessous de 5 mégapascal. Je vous avais montré auparavant dans un cours quelle était l'importance d'avoir quand même une certaine pression concernant les densités de courant. D'où on peut effectivement, dans ce cas, utilisant cette configuration, ou dans ce cas, je suis repassé quand même dans une structure double couche, puisque j'utilise lithium métal, eh bien, on peut là aussi faire cycler des accumulateurs jusqu'à 0,2 mégapascal. Alors, vous pouvez me dire, est-ce qu'on a résolu le problème? Pas du tout, loin de là, puisqu'on a toujours les problèmes de dendrites qui, directement, sont présents dans ce type d'accumulateur. D'où on a abaissé la pression, mais il reste encore toute une chimie ou toute une compréhension ou un engineering à faire de façon à limiter ces problèmes de dendrite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se fait aujourd'hui, je dirais, dans le monde au niveau de cette chasse vers des basses pressions. Donc pour résumer, ce que je vous ai montré dans ce cours, deux aspects, je vous ai montré deux façons d'arriver à ces basses pressions. La première a été, dans le cours antérieur, comment, avec des électrodes de surface contrôlées par la diffusion, rappelez-vous, c'était des chalcogénures qu'on avait tout simplement, dans ce cas, broyées, ou alors aujourd'hui, en utilisant des électrolytes différents, on peut atteindre, je dirais, des pressions pour utiliser ce lithium métal. Mais bien sûr, une fois de plus, la mise en œuvre reste problématique, et là, eh bien, il va falloir travailler fortement sur l'élaboration de couches tampons, des alliages pour, une fois de plus, ajuster ces interfaces, et également sur des électrolytes hybrides, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que maintenant, on va regarder finalement comment on peut résoudre tous ces problèmes, et en gardant l'esprit, si je peux dire, de la fabrication de cellules à l'échelle industrielle. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte de mettre en équation cette recherche du laboratoire avec la recherche industrielle. Alors finalement, dans la recherche industrielle, c'est quoi? Que vont être ces configurations de batteries tout solides? Bien, ces configurations de batteries tout solides, j'ai essayé ici de vous faire, je dirais, une présentation de ce que ça peut être. Vous avez bien sûr les fameuses pouch cells que l'on connaît tous. Après, vous avez ici, dans ce cas, je dirais, des empilements de pouch cells avec, dans ce cas, des pressions pour obtenir une cohésion entre les différentes composants. Et ensuite, vous avez les cellules conventionnelles en parallèle ou alors des cellules bipolaires mais qui, de nouveau, c'est des cellules qui sont toujours très attractives, mais qui présentent des problèmes, je dirais, assez considérables au niveau de l'équilibrage entre les différents composants et les cathodes et les anodes. Alors la question, c'est maintenant, si on fait du tout solide, on peut faire cela. Ensuite, ça va être quel procédé? Et les procédés de fabrication d'électrodes, eh bien là aussi, il y a, je dirais, deux grandes écoles. Ça va être les procédés par voie sèche, qu'on peut voir ici, dans lequel ça va être du broyage par cisaillement ou par compression pour avoir des poudres et des feuillets relativement compacts, ou alors des procédés par voie solution, par voie des encres, comme il se fait de façon, je dirais, coutumière avec la technologie liquide lithium-ion aujourd'hui. D'où ce qu'on va voir maintenant, mais c'est un peu ces approches, qu'est-ce qui se fait au niveau du laboratoire dans ces différents domaines. Alors ce qui se fait au niveau du laboratoire, eh bien, dans la plupart des laboratoires, je dirais, c'est tout simplement la méthode de compactage de poudre, comme vous pouvez voir ici, avec ces différents types de cellules dans lesquelles on va mettre les différents composants et on va, bien sûr, regarder les propriétés électrochimiques. Alors on a une très bonne idée sur la densité énergétique limitée. On peut avoir de très bonnes idées sur les résistances au contact, les limitations fondamentales de ces problèmes. Par contre, on est totalement aveugle sur l'aspect industriel et c'est automatiquement pas du tout viable sur l'aspect industriel. D'où, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des méthodes qui sont plutôt des méthodes par solution, dans laquelle, finalement, on va essayer de s'inspirer de ce qui s'est fait, de ce qui se fait aujourd'hui dans le cas de la technologie lithium-ion. C'est-à-dire qu'on va essayer d'imiter la fabrication d'électrodes. Alors aujourd'hui, la plupart des lithium-ions sont préparés par la voie solution dans laquelle on va faire tout simplement le dépôt d'une encre qu'on va sécher et on va faire des électrodes. Une voie qui est développée par certaines compagnies, notamment des compagnies comme Bolloré pour ces batteries tout solides qui vont être à la voie sèche, dans le cas on va utiliser un extrudeur où il n'y aura directement pas du tout de solvant. C'est-à-dire qu'on aura un liant qu'on va tout simplement mélanger un électrolyte solide pour avoir une membrane supportable. Et enfin, eh bien, ensuite, il va y avoir l'assemblage qui va pouvoir se faire à partir de trois feuillets par laminage ou par compaction. Donc voilà, si vous voulez, comment ces systèmes vont se faire. Alors la question qui se pose, quand on regarde ça, c'est-à-dire quand il y a du solide, eh bien, c'est comment assembler deux solides et en faire un feuillet flexible. Et c'est vraiment là, je dirais, la question qui va... m'occuper pour le reste de cette présentation. Et cela, eh bien, va m'amener à un point très important, c'est-à-dire le regain d'intérêt pour ces technologies hybrides. Et alors là, les technologies hybrides, c'est l'ambiguïté totale due à une pléthore de nomenclatures où chacun veut son originalité, non pas par la science, mais par le nom qu'ils vont donner à leur nouvelle batterie. Alors dans ce cas, on entend parler de batteries hybrides. On en parlait de batteries composites, on parlait de batteries quasi-solides, semi-solides ou presque solides. Bon, il faut bien se rendre compte que dans le cas d'une batterie tout solide, l'élément clé, c'est l'électrolyte. Et cet électrolyte, comme on l'a déjà discuté dans les cours précédents, il a deux propriétés particulières, c'est-à-dire d'avoir une conductivité ionique très importante et, théoriquement, dans le tout solide, et c'est l'avantage du tout solide, c'est un nombre de transport de 1, puisqu'il n'y a qu'un seul cation qui roule. D'où ensuite, eh bien, tous les électrolytes, eh bien, on peut les distinguer par les mécanismes de conduction ionique, la conductivité ionique, la stabilité thermique, les propriétés mécaniques, les fenêtres électrochimiques, ainsi de suite. D'où par conséquent, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans ces différentes nomenclatures en regardant ou en classifiant l'électrolyte par le type de conduction. Eh bien, le type de conduction, il va y avoir, je dirais, les trois grands types de conduction. Conduction, dans le cas des électrolytes liquides, où dans ce cas, le transport va se faire grâce à une solvatation, comme vous pouvez voir ici. C'est-à-dire que le cation va s'entourer de molécules et c'est l'ensemble qui va se transporter. Dans le cas des électrolytes polymères, on va avoir un transport par solvatation et désolvatation, mais dans ce cas, eh bien, ça va être tout simplement le mouvement segmentaire des chaînes polymériques qui va permettre directement le transport de ces ions. Et enfin, dans le cas des électrolytes solides, eh bien, ce n'est rien d'autre que un transfert d'ions de différents sites à l'intérieur d'une même structure, c'est-à-dire dans des lacunes ou des sites interstitiels. Et enfin, nous voilà réellement les bases. Et ensuite, ces fameux électrolytes hybrides, eh bien, c'est des électrolytes dans lesquels on va avoir un mécanisme de deux conductions. Soit les conductions entre directement liquide, électrolyte et solide électrolyte, soit la conduction entre solide électrolyte et polymère. D'où, tout système hybride par définition, il y aura deux mécanismes de conduction, et bien sûr, il va falloir comprendre ce qui se passe et comment, à quel moment cette conduction a lieu. Alors maintenant, je vous ai parlé de conduction, regardons quels sont ces mécanismes de conduction. Mais ces mécanismes de conduction, je vous ai pris ici trois exemples assez classiques, dans lesquels vous allez avoir un solide, un verre, ou un matériau cristallin, je pourrais dire, vous allez avoir les polymères et les liquides. Et bien dans ce cas, les conductions ioniques peuvent se décrire par ce graphe, dans lequel vous tracez la conductivité ionique sigma en fonction de 1 sur t. Vous avez ces courbes indiquées ici, courbe en bleu, courbe en vert et courbe en rouge pour les polymères. Et vous voyez qu'il y a deux lois qui sont la loi de VTF, qui est Vogel-Talmann-Volker, dans laquelle on va introduire une température T et T0. T0 est la température de Talmann, qui est reliée à la température de transition vitreuse. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a un comportement de type Arrhenius, eh bien, dans le cas du matériau solide, alors qu'on a un comportement de type VTF, dans le cas du liquide et le cas du polymère. Et une fois de plus, dans le cas des électrolytes hybrides, on va avoir les deux mécanismes, on va le voir par la suite, on peut avoir à la fois du VTF ou de l'Arrhenius. Okay. Et ce qui est important, c'est que bien sûr, si on a ces deux mécanismes, eh bien, on va créer, si je peux dire, une interface entre ces deux matériaux, et là aussi, le transfert d'ion, le transport d'ion à cette interface va être relativement important. Donc voilà, si vous voulez, essayer de clarifier un peu ces différents mécanismes de conduction et ces différents électrolytes. Alors ensuite, je vous ai parlé que d'électrolytes. Alors maintenant, on va encore passer encore plus loin et on va aller au cas maintenant des batteries. Dans le cas des batteries, eh bien, vous allez trouver toujours pareil ces différents types de batteries. Alors je mets SIB, ça veut dire en ce cas, c'est une batterie purement solide. Vous avez les batteries directement liquides ou gel, ou ionogel, comme vous voulez. Ensuite, vous avez directement les batteries polymères, dans lesquelles, dans ce cas, il va y avoir dry polymère ou alors du polymère plastifié. Et enfin, vous avez ici les fameuses technologies hybrides qui vont coupler un liquide avec un électrolyte solide ou un polymère avec un électrolyte solide, avec, dans ce cas, des mélanges homogènes ou alors des multifeuillets ou des hétérostructures. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce qui se passe au niveau de ces matériaux. Donc vous voyez toute la nomenclature que vous avez et la raison pour laquelle ne soyez pas confus par tout ça. Alors maintenant, on va voir un peu ce qui se passe dans un cas beaucoup plus précis, c'est-à-dire lorsqu'on va utiliser finalement des gels ou des polymères. De quoi on parle, comment on peut concevoir cela, et c'est quoi un gel, c'est quoi un plastique. Bien, tout cela peut être réglé, je dirais, par un simple paramètre, ce qu'on appelle le nombre de donneurs du polymère par rapport à celui du solvant. Et c'est la raison pour laquelle on va distinguer, finalement, un plastique d'un gel. Plastique dans le cas d'un PVDF HFP, avec un gel dans le cas de PO. D'où un plastique, ça va être tout simplement eh bien, un composé dans lequel le nombre d'ampères du solvant est très supérieur à celui du polymère. Et dans ce cas, eh bien, il y aura des interactions faibles entre le polymère et le solvant, et la conduction va se faire le long des chaînes. C'est-à-dire, grosso modo, vous pouvez regarder ce plastique comme une matrice dans laquelle vous allez avoir des îlots d'électrolytes qui vont être fortement piégés aux chaînes polymériques qui, dans ce cas, seront PVDF-HFP. Dans le cas du gel, eh bien, on a le nombre d'honneurs du polymère est supérieur à celui du solvant, ce qui fait que maintenant, la conduction ne se fait pas dans les îlots, mais elle se fait le long des chaînes. Donc voilà directement la différence qu'il y a entre plastique et gel, une évolution, je dirais, du plastifiant. Et la raison pour laquelle, dans ce cas, on a ces comportements, c'est tout simplement, si on regarde les nombres de donneurs pour ces différentes matières, bien, ils sont indiqués ici, et ils se confèrent complètement le comportement plastique ou le comportement gel. Donc voilà, si vous voulez, sur les notions dans lesquelles les gens ou les chercheurs ont développé pour créer des batteries tout solides. Alors ces batteries tout solides, notamment avec des configurations hybrides, vous avez des centaines de papiers là-dessus, et je ne vais pas tout simplement les résumer, je vais donner 3 ou 4 exemples, de façon, je dirais, à passer certains messages. Alors un des premiers exemples, dans lequel on voit des batteries, alors vendues tout solides bien sûr, dans lequel dans ce cas on retrouve un mélange PVDF et FeO4, et l'astuce ici, c'est qu'effectivement on a des problèmes d'interface, aux résistances, D'où par conséquent, les chercheurs ont, dans ce cas, ont mis un gel pour assurer un transport ionique, un transport électronique. Un deuxième exemple est indiqué ici, dans lequel, dans ce cas, on retrouve, vous voyez, ce mélange, maintenant, conducteur polymère et conducteur solide, garnet, où on a une interface, et pour combattre cette interface, les chercheurs ont mis du fluorure de lithium à l'interface, et LFP en électrode positive. Et là aussi, ce système fonctionne à 65 degrés C, et les performances sont relativement modestes. Un autre système qui s'inspire des technologies polymères est indiqué ici, où dans ce cas, on va mélanger eh bien, un polymère chargé en perchlorate avec, du grognon, avec le matériau lithium FePO4. On peut continuer ainsi, et on peut avoir d'autres systèmes, où maintenant, on vous parle directement d'ionique liquide, où dans ce cas, certains chercheurs, pour lutter contre cette résistance de transfert, et interfaciale ont ajouté certains ioniques liquides. D'où, quand on vous parle ionon gel, ainsi de suite, vous voyez que tout ça, c'est très proche, et il n'y a pas aucune invention, c'est tout ça, ça existe bien. Alors, dans ce cas, la question qui se pose, et c'est intéressant d'ailleurs de voir, c'est que les chercheurs ont utilisé la plupart du temps LFPO4. Alors, la question, on peut se demander pourquoi. Mais pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est que dans chaque cas, ils mettent, ou presque, ils mettent du POO, et on sait très bien que le POO n'est pas stable électrochimiquement au-dessus de 3,9 volts. Donc par conséquent, il faut contourner cette difficulté. Et il y a un papier qui est, je dirais, sorti il y a de cela 3 ou 4 ans, un papier d'un groupe espagnol dans lequel eh bien, ils ont essayé de trouver un autre polymère qui permette d'aller en oxydation. Et ce polymère, eh bien, il faut qu'il ait certaines propriétés. Et dans ce cas, eh bien, on va utiliser du carbonate prolyprolyène qui a des propriétés ioniques suffisantes, qui est stable à de haut potentiel et qui a finalement une excellente propriété de liant. D'où par conséquent, on va utiliser ce polymère qu'on va combiner avec un électrolyte polymère solide, où on va maintenant, loin de l'électrode, on va utiliser de l'oxyde propylène. C'est-à-dire qu'on va faire une structure une fois de plus bicouche, et grâce à cette structure bicouche, je vais pouvoir accéder à des potentiels oxydation beaucoup plus haut, c'est-à-dire utiliser des matériaux d'électrode comme de type NMC et ainsi de suite. D'où par conséquent, dans ce cas, bien les chercheurs ont regardé les propriétés de ces matériaux en utilisant différentes sels et l'astuce de ce travail a été finalement d'utiliser ce sel indiqué ici dans lequel, vous voyez, vous avez une longue chaîne qui va tout simplement aller se fixer au polymère et faire en sorte qu'il y ait seulement un déplacement de cations, mais pas d'anions. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre de transferts de 1. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu obtenir, vous avez ici les propriétés résumées de ces différents systèmes, si j'utilise tout simplement la méthode classique, POO, bien ce cas, je n'ai aucune performance car les matériaux vont s'oxyder. Si maintenant je passe à ce système avec différents sels, là aussi, je ne coche pas toutes les cases, et finalement, il faut que j'utilise ce mélange PPC-PO avec ce sel qui va directement fixer les anions à la partie polymère et laisser les cations libres pour la conduction. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est fait dans ce système. Alors ce système, là, une fois de plus, rien de bien époustouflant, si je peux dire, au niveau performance, puisqu'il travaille à 70 degrés C, et là aussi, les tenues en capacité ne sont pas, je dirais, très importantes. Mais ce qui était élégant dans ce travail, c'est le concept, le dessin de ce nouveau polymère. Ensuite, des travaux beaucoup plus classiques vont consister dans ce cas à faire des mélanges de polymères PVDF-HFP avec des conducteurs inorganiques, comme indiqué ici. Et vous avez ici des manips relativement classiques dans lesquelles eh bien, on va mélanger différents polymères avec, je dirais, la nouveauté ici, c'est d'utiliser du succinylnitrile qui va permettre d'avoir une meilleure stabilité en oxydation. Et grâce à cela, on peut faire des électrodes, on peut assembler des cellules de méthode classique et obtenir bien, des performances, comme indiqué ici, avec des capacités ou des tenues en cyclage qui sont relativement correctes. Et à ce point, je voudrais vous montrer que ces méthodes, tout ça, qu'on est en train de voir ici, eh bien, c'est des méthodes qui ont été travaillées il y a déjà de plus de 25 ans. Et je vais vous montrer, dans ce cas, une technologie qui a été développée, qui est la technologie Belcore, dans lequel vous allez voir que c'est exactement le même concept, le même principe, on va le retrouver. Vous voyez, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on mélangeait PVDFFHP avec un plastifiant. Et à l'époque, on ne mettait pas des électrolytes conducteurs ioniques, on mettait de la silice pour charger et pour apporter les propriétés mécaniques. Et grâce à cela, on pouvait faire des films plastiques. Et ces films plastiques, on en faisait un pour l'électrode négative, un pour l'électrode positive, et on faisait tout simplement notre batterie tout solide grâce à ce simple système de laminage. Et qu'est-ce qu'on avait ? On n'avait rien d'autre qu'une matrice plastique PVDFHFP dans laquelle d'un côté on y mettait l'électrode positive, les poudres d'électrode positive, et d'autre côté les poudres d'électrode négative. Et ensuite, par des méthodes de retrait du plastifiant, on allait infiltrer l'électrolyte. Et vous allez voir, rappelez-vous ces termes, infiltration, ça va revenir à la fin de cette exposé, et c'est relativement intéressant d'entendre. Et ensuite, bien, on emballait tout cela, et on faisait la fameuse technologie plastique lithium-ion. Donc voilà ce qu'on faisait à l'époque. Ensuite, bien, en 2003, dans un projet français, d'ailleurs avec Bolloré, un projet Alep, où là, eh bien, bien sûr, la question, c'était que notre technologie Belcor ne pouvait pas travailler vis-à-vis du lithium métallique, puisque tout simplement PVDF-HFP réagit avec le lithium métal. Donc, par conséquent, dans ce cas, il fallait trouver une astuce pour empêcher sa réactivité. Et l'astuce a été tout simplement de mélanger deux polymères. Et on retrouve les mêmes polymères, PVDF-HFP, avec PEO, qui lui n'est pas terrible en oxydation, mais a l'avantage d'être stable en réduction vis-à-vis du lithium. Bien, grâce à cela, on avait assemblé des accumulateurs, comme indiqué ici, avec bicouches, dans lesquelles on pouvait tout simplement former ou cycler des batteries. Vous avez une batterie ici qui a été cyclée avec 4 ou 5 cycles vis-à-vis du lithium métallique. D'où tout cela peut se faire, mais là aussi avec ensuite les problèmes d'andrite. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire cette approche avec des charges organiques qui ne sont pas de la silice, mais qui sont maintenant non conducteurs ioniques. Et là, eh bien, c'est finalement, si je peux dire, garder un peu le même concept, dans lequel, vous regardez ici, on va avoir du PVDF-HFP, je dirais, de la matériau d'électrode positive à l'électrode négative, et avec un électrolyte solide, qui sont ici les billes en vert, tout le long. Et là, la question, eh bien, il va y avoir, bien sûr, des difficultés. Une fois de plus, il va falloir faire ce foyer de cathode. Il va falloir trouver le bon plastifiant, ou plutôt le bon solvant, autant pour l'électrolyte et ainsi de suite. Et pour cela, bien sûr, il va y avoir une problématique de solvant. Alors ce solvant, on ne l'avait pas dans la technologie précédente, puisqu'on mettait directement de la silice, et peu importe si cette silice avait des réactivités avec le solvant, par contre là, ça va être une histoire totalement différente, puisqu'il nous faut des solvants qui ne vont pas affecter mon conducteur ionique. C'est-à-dire que si dans ce cas, une argyrodite, eh bien, il faut que cette argyrodite ne soit pas du tout affectée par le solvant que vous utilisez. Et là, il y a eu beaucoup de travaux dans la littérature où des chercheurs ont testé finalement différents types de solvants. Vous voyez ici, lorsque j'utilise directement de l'acétonitrile, du THF ou toluène, vous voyez comment j'affecte la conductivité ionique de mon électrolyte. Et tout cela, ce n'est pas viable, car je suis en train de détruire la conductivité ionique lorsque je veux faire de telles expériences. Ensuite, vous avez ici d'autres types de solvants. Vous apercevez ici que vous avez des acétates et notamment des butylbutyrates qui sont, je dirais, ou qui performent relativement correctement en présence de liants comme PVDF-HFP et ainsi de suite. Donc, par conséquent, c'est ces types de solvants qui ont été utilisés dans le couple. Alors, cela, ensuite, c'est fait par la voie solution. Et cette voie solution consiste tout simplement, je dirais, à mélanger les différents composants et à faire des encres pour faire un dépôt comme indiqué ici. Et ce dépôt vous permet d'obtenir eh bien, des feuillets, je dirais, d'électrodes. Et ces feuillets d'électrodes, eh bien, vous pouvez les assembler, ce que vous regardez ici. Et dans ce cas, eh bien, il y a eu l'utilisation d'une presse isostatique pour obtenir un bon compactage entre les différents composants et pour obtenir, je dirais, les performances indiquées ici. Et vous voyez ici sur ce graphe, c'est qu'on peut effectivement obtenir des pouch-cells qui fonctionnent correctement à condition d'utiliser une pression isostatique. Sinon, les contacts sont uniformes entre les différentes électrodes et on ne peut pas obtenir une bonne performance. Et c'est ainsi qu'on peut réaliser des cellules qui sont loin d'être parfaites, mais qui montrent finalement les bienfaits de la pression isostatique dans le développement de ces cellules. Alors ensuite, bien cela consiste l'utilisation finalement d'un liant qui, dans ce cas, n'est pas un conducteur ionique. Ensuite, il peut y avoir des travaux dans lesquels on peut utiliser un liant qui va être un conducteur ionique. Et dans ce cas, c'est qu'on va retenir, on va revenir sur les travaux avec le POO. Et dans les travaux avec le POO, on va pouvoir maintenant construire certains mélanges inorganiques-organiques. Vous voyez ici ce qu'on appelle soit on va mettre la céramique dans le polymère à de faibles concentrations, ou alors le polymère à la céramique vice-versa. Et dans ce cas, on peut obtenir une fois de plus des mélanges. Mélanges dont il va falloir ajuster les conductivités ioniques, car pour obtenir un système qui fonctionne, il va vous falloir des conductivités ioniques, et ensuite les propriétés mécaniques. Et ça, c'est le travail qui a été effectué par un thésard Roland Cometon au laboratoire, où il a mélangé différents composants, avec ici la variation de la conductivité ionique en fonction de la température selon les mélanges. Et vous voyez que vous avez deux domaines, un domaine dans lequel on a plus ou moins le comportement, qui est le comportement polymérique indiqué par le mécanisme de conduction, et un domaine dans lequel on a le comportement inorganique, c'est-à-dire du conducteur ionique, comme indiqué ici. Et pour avoir des meilleures performances, eh bien, il faut se placer aux alentours de 75% de charge inorganique dans le polymère pour obtenir de bonnes conductivités ioniques et avoir une bonne compatibilité entre les propriétés de conduction et les propriétés mécaniques. Et grâce à cela, et grâce à un ajustement des différents types de polymères, c'est-à-dire de leur masse molaire, voire l'utilisation de copolymères, eh bien, on peut, dans ce cas, obtenir également des systèmes qui fonctionnent, je dirais, relativement correctement à des pressions, de ce cas, de 100 MPa. Nous, on est toujours encore à des hautes pressions dans ce système. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qu'on peut faire avec ces genres de systèmes et ces matériaux hybrides. Et ensuite, je voudrais passer alors, à une autre approche qui est certainement une qui est peut-être la plus intéressante ou peut-être la plus prometteuse vis-à-vis des applications. C'est cette approche dans laquelle je vous ai mentionné au départ d'infiltration. Alors, c'est des travaux qui ont commencé il y a déjà 4 ou 5 ans et les premiers papiers, dont un qui est indiqué ici, montre tout simplement que dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va préparer des conducteurs ioniques par méthode de solution. L'argirodite, on avait déjà vu dans le cours numéro 2, comment on pouvait le préparer en utilisant l'éthanol comme solvant. Et on va prendre des cathodes classiques de batteries lithium-ion et on va, dans ce cas, infiltrer tout simplement l'électrolyte et ensuite, tout simplement, faire un traitement. Et on peut obtenir des courbes, comme vous voyez ici, qui sont relativement intéressantes, mais au niveau des performances, ce n'est pas terrible. Un papier qui est sorti après, 12 ou 3 ans après, qui était relativement intéressant, un papier de la Nature Materials, dans lequel, dans ce cas, les chercheurs ont, de nouveau, utilisé une électrode densifiée, mais dans ce cas, ils ont utilisé, l'astuce a été d'utiliser un conducteur ionique, conducteur de type antipérovskite, qu'on a déjà vu dans le cours numéro 3, je pense, où, dans ce cas, on a une conductivité ionique de 10-4, et ce matériau a l'avantage de fondre à des températures de 200-250 degrés. Et dans ce cas, ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement mettre cette poudre, comme indiqué ici, et vous allez voir, en allant à température, le conducteur ionique va directement s'infiltrer dans le matériau d'électrode, et vous avez dans ce cas des contacts relativement intéressants. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir une fois de plus des performances indiquées ici. Dans ce cas, c'est une étude avec NMC. Vous voyez également les mesures en performance, en puissance. Cependant, notez que les températures sont autour de 100 degrés C. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce conducteur ionique, qui est l'antipérovskite, n'a pas la conductivité ionique nécessaire. Il faut augmenter sa conductivité ionique et l'idéal serait d'abaisser également cette température du fission pour avoir un... Donc voilà, si vous voulez. Et ensuite, et ça, je voulais en arriver à ce travail qui, je pense, est quand même relativement innovant et qui est très intéressant. C'est-à-dire, je vous ai montré dans le cas de la batterie Belcor, où on utilisait finalement une matrice qui sketchait finalement la batterie. Et dans ce cas, eh bien, la batterie va être construite autour de l'électrolyte. Et ce que vous voyez ici, c'est un électrolyte type Grona, dans lequel on va créer une triple couche, triple poreuse, dense, poreuse. Et ça va être le support de cette batterie, et on va tout simplement infiltrer d'un côté le lithium et de l'autre côté l'électrode positive. Alors lorsqu'on fait ça, eh bien voilà ce qui se passe. On prend tout simplement du lithium, on le met à la surface d'un côté, on chauffe et on va infiltrer le lithium à l'intérieur. Okay. Nous, dans ce contexte-là, quel est l'avantage? Bien, l'avantage, vous avez du grenat, vous avez une surface développée due à cette microstructure qui est gigantesque. D'où automatiquement des courants, je dirais, effectifs qui seront beaucoup plus importants. Ensuite, eh bien, du côté de l'électrode positive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, dans un premier temps, eh bien, on va mettre une encre de carbone pour avoir la paroi métallique pour la conduction électronique. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement aller mettre, dans ce cas, on est en train de regarder une batterie lithium-soufre, où on va tout simplement injecter le soufre par évaporation. Mais le point qui est faible, c'est qu'en ce cas, pour que ça fonctionne, on est obligé de mettre de l'électrolyte liquide. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, vous avez 1 microlitre par milligramme de soufre. Et ça, c'est toutes les technologies hybrides que l'on voit aujourd'hui, dans laquelle il n'y en a aucune qui sont des technologies pures, mais qui ont tous directement du liquide. Et grâce à cela, eh bien, on peut, ou les gens ont pu obtenir des bonnes performances sur les technologies lithium-soufre. Vous retrouvez, je dirais, l'empreinte électrochimique de ces batteries, avec, dans ce cas, les nombres de cycles, 50 cycles. Et si on regarde les prédictions, eh bien, on peut effectivement prétendre à obtenir, dans le cas des batteries lithium-soufre, des densités d'énergie aux alentours de 400 à 450 Wh par kilo. Okay. Tout ça, c'est, je dirais, c'est très intéressant. Et la difficulté, c'est que chaque fois, il faut ajouter de l'électrolyte liquide. Alors, ces travaux ont été poursuivis et il y a même une compagnie qui a été fondée à partir de là, qui est Ion Plus, qui développe cette technologie. Et là, vous le voyez très clairement, hein, vous voyez directement la structure de cette hétérostructure, dans laquelle on voit bien le grenat ici, on voit bien très bien le lithium métal. Et là, dans ce cas, vous voyez tout simplement l'électrolyte liquide qui va, bien sûr, aider au transport d'ions pour avoir de meilleurs atomes. Et dans ce cas, bien, aujourd'hui, ils en sont aux alentours de 150 cycles, comme je crois indiqué ici, avec des performances comme mentionné. Alors là aussi, ce qui me gêne beaucoup, c'est chaque fois on rapporte des capacités normalisées, d'où à 100%, on peut tout rapporter à 100%, ça sera toujours très bien. Et la question ici, c'est finalement, ces gens prétendent qu'ils vont obtenir plus de 1000 cycles. Alors, une dernière innovation qui est exactement dans le même style et qui est aussi intéressante, c'est qu'une limitation dans ces matériaux est toujours la conduction électrique. Eh bien, des chercheurs ont maintenant sont revenus plutôt à la chimie des grenats. Et ils ont, dans ce cas, fabriqué des grenats qu'on appellerait des conducteurs ioniques mixtes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir conduction d'ions et conduction d'électrons. Okay ? Chose dans laquelle je vous avais dit, on ne devrait pas le faire dans mon premier cours. Mais dans ce cas, comme c'est séparé, eh bien, il va avoir un matériau dense qui va être directement un grenat classique. Et ensuite, eh bien, ils ont toutes ces compositions. Et vous voyez, en modifiant ces compositions, c'est-à-dire en synthétisant de nouveaux grenats, ils arrivent à garder la conductivité ionique identique, ils ne l'affectent pas. Par contre, ils augmentent la conductivité électrique. Et ça, cette conductivité électrique a une importance capitale à l'électrode négative, où, une fois de plus, on avait vu dans ce cours que l'importance ou la distribution du courant électronégatif est ce qui va gouverner la croissance dendritique. Donc voilà, si vous voulez, ces genres de travaux qui ont été effectués. Et dans ce cas, eh bien, comment ça se fait? Eh bien, on va tout simplement préparer une encre de ces grenats avec, bien sûr, dans les couches extrêmes, eh bien, l'addition d'un porogène, qui dans ce cas vont être des sphères de PMMA. Et ensuite, on va assembler tout cela sous pression à 60 degrés C. Et ensuite, on va tout monter à 100 degrés C pour obtenir ces structures, je dirais, avec porosité du côté de la couche dense. Et ensuite, même méthode qu'auparavant, on va aller d'un côté mettre le lithium par une fusion du lithium à 200 degrés C, et de l'autre côté, et ça n'est pas le plus clair, on va mettre, dans ce cas, je pense, l'électrode d'un MC conventionnel, avec une fois de plus, malheureusement, du liquide, pour assurer une bonne conduction ionique. Et grâce à cela, eh bien, voilà les performances qui ont été obtenues. Et là aussi, vous voyez, ce n'est pas encore génial, hein. Vous voyez une chute quand même relativement conséquente. Mais je trouve que ce procédé est relativement élégant et intéressant. Et dans le même esprit d'utiliser ces Gronand, eh bien, je citerai ces travaux de QuantumScape avec, dans ce cas, eh bien, ces Gronand, c'est-à-dire, ça, vous allez regarder des céramiques qui sont flexibles dans ce cas. Alors dans ce cas, de nouveau, ces compagnies, c'est très difficile de savoir ce qu'ils font réellement. Est-ce que c'est des électrodes poreuses? Est-ce qu'il y a des trois feuillets, ainsi de suite, peu importe. Des performances qui ont été rapportées eh bien, en puissance, comme indiqué ici, en fonction de la température. Il y a des performances, bon, une fois de plus, toujours normalisées, d'où pas grand-chose. Et enfin, au niveau aspect sécurité, je vais y revenir par la suite, c'est des résultats qui sont encourageants, mais une fois de plus, il y a une électrode positive liquéfiée, et à la fin, eh bien, on a un système dans lequel on a la problématique du liquide plus les problématiques du solide. De tout cela, quelle sera la valeur ajoutée? Donc voilà, si vous voulez, à peu près, ce que je voulais vous raconter, ce qui se fait, ou ce qui se fait sur les batteries tout solides, au niveau configuration d'électrodes, assemblage, avec tous ces systèmes hybrides, qui sont des gels, qui sont des polymères, qui sont des liquides, ou même des ionogels, certaines compagnies développent des ionogels. Alors la question que je voudrais terminer, d'ailleurs, ce cours, est finalement la question de sécurité. Alors, on a conçu, il y a eu tout cet engouement au niveau du tout solide, car théoriquement, le tout solide devrait être beaucoup plus sûr que le lithium-ion. Et il y a déjà des papiers qui sont sortis, qui ont montré que tout cela n'était pas évident. Et tout récemment, il y a des papiers qui sont sortis, un papier qui est sorti, il y a de cela 2 ou 3 mois, concernant finalement la stabilité de ces matériaux, de ces batteries, dans ce qu'on appelle l'emballement thermique. Et l'emballement thermique est un phénomène qui est, je dirais, très très important pour les applications mobilité, et ainsi de suite. Eh bien, si on regarde ce papier, eh bien, il est assez un peu effrayant, puisqu'il montre, comme vous le voyez ici, je regarde tout simplement le delta H, c'est-à-dire l'énergie dégagée entre la réaction d'un NMC, matériau d'électrode, chargé à 4,5 volts, c'est-à-dire composition lithium 0,1 NMC, et mon sulfure. Et je m'aperçois que dans tous ces sulfures, vous avez ici les lithium 3PS4 qu'on a vu, vous avez ici l'argérodite, vous avez ici les phases lithium GSPS. Eh bien, regardez l'électrolyte liquide, tous ces électrolytes solides ont des chaleurs qui sont 7 à 8 fois plus importantes que l'électrolyte liquide. OK ? Bien sûr, les oxydes, que j'ai mis en jaune ici, eux, ils se comportent parfaitement. Ici, je vous montre finalement les gaz qui sont libérés. Et les gaz qui sont libérés, c'est du SO2. Okay. Bon, SO2, ce n'est pas terrible. Bon, c'est mieux qu'H2S, mais ce n'est pas terrible. Alors, si on regarde maintenant pourquoi tout cela, eh bien, je dirais, c'est bien compris, c'est bien référé dans ce papier. C'est qu'il y a 2 réactions qui se passent. Il va y avoir des réactions à l'état gazeux et des réactions à l'état solide. Alors, les réactions à l'état gazeux, tout le monde le sait, on le savait déjà, dans le cas du lithium-ion, c'est que vous avez une électrode chargée, eh bien, vous avez un certain dégagement d'oxygène. Eh bien, dans ce cas, en charge, ce matériau d'électrode va relarguer de l'oxygène aux alentours de 200 degrés et il va réagir directement avec le sulfure pour donner SO2 plus des phosphates et avec cette fameuse chaleur exothermique. Alors, si on prend maintenant des matériaux cristallins, que sont l'argérodite ou le lithium germanium PS2, dans ce cas, eh bien, le mécanisme réactionnel va être différent. C'est-à-dire qu'à 200 degrés C, eh bien, on va avoir un dégagement d'oxygène, mais ce n'est pas le NMC en soi-même qui va directement réagir, c'est les produits de décomposition du NMC, c'est-à-dire les nickel-oxydes, les manganèse-oxydes, les cobalt-oxydes, qui vont réagir avec maintenant les sulfures pour vous donner eh bien, ces composés, c'est-à-dire des phosphates et là aussi des deltas de réaction qui sont relativement importantes. D'où, c'est vraiment important de voir que dans ce cas, et vous avez un tiers, vous avez 2/3 de la communauté aujourd'hui qui travaille sur des systèmes NMC sulfure. Alors lorsque j'ai fait ce transparent hier soir, je me disais, mais c'est quand même bizarre, qu'en est-il des halogénures? Et a priori, il n'y avait aucun papier qui était sorti. Et ce matin, eh bien, il y a un papier qui est sorti. Il m'est arrivé ce matin sur les halogénures. Bien, dans le cas des halogénures, eh bien, comme vous pouvez voir ici, heureusement, je dirais, c'est beaucoup moins dramatique. Pour la bonne et simple raison, c'est que la NMC ne se comporte pas mieux. À haut potentiel, il va regarder l'oxygène. Mais par contre, en ce cas, eh bien, cet oxygène va tout simplement réagir pour la décomposition du sulfure et former ces deux composés qui sont l'oxychlorure d'indium et l'oxydendium, qui vont tout simplement d'abord capturer tout l'oxygène et qui sont des composés, je dirais, relativement bénins, tout à voir. D'où c'est la raison pour laquelle, et dans ce cas, ces réactions sont relativement contrôlées et la chaleur relarguée est beaucoup plus faible. Et je crois que j'ai mis des valeurs ici, effectivement, regardez les valeurs, c'est quand même assez impressionnant. En fait, les changements de valeur à 1,1 joules par gramme comparé aux alentours de 138 joules par gramme. Okay. D'où, et ces halogénures qu'on va mentionner, atténuent le dégagement d'oxygène. Alors la question de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NMC est réellement problématique avec les sulfures. D'où, est-ce que c'est vrai? Bien, à ce compte-là, il suffit de changer de matériau d'électrode. Et effectivement, si vous changez de matériau d'électrode, c'est-à-dire que si vous utilisez lithium FePO4 avec des sulfures, eh bien dans ce cas, vous êtes dans une situation beaucoup plus sûre qu'avec les NMC. D'où, une fois de plus, le matériau d'électrode va être, je dirais, très important pour la sécurité de ces batteries d'eau solide. D'où, avec les sulfures, si vous voulez utiliser lithium FePO4, utilisez lithium soufre, ça va être soufre-soufre, ça sera bon, mais surtout, ne pas utiliser du NMC. D'où voilà, si vous voulez, au niveau sécurité. Et enfin, puisque j'ai parlé sécurité, il faut que je termine sur des problèmes de coût. Et si je regarde au niveau des problèmes de coût, eh bien là aussi, des problèmes de coût, on pourrait, je dirais, faire 15 transparents ainsi, et chacun aurait directement son chiffre. Bon, j'ai pris celui-ci dans lequel on regarde simplement quel est le coût, je dirais, de production eh bien, des différentes batteries au kilowattheure et dans le cas, je dirais, de 6,9 gigawatts de production par an. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, voilà tout simplement le tout solide avec une anode de graphite. Bon, ça on avait déjà démontré que ça n'a pas grand avantage puisqu'en termes de densité d'énergie, ça n'a pas apporté grand-chose. Et dans le cas où on arrive à faire des batteries vers le lithium-métal, vous voyez qu'en ce cas, on devrait à peu près être, je dirais, à la même valeur. Okay. Ensuite, lorsqu'on parle de technologie hybride, eh bien là aussi, la technologie hybride, eh bien, il va y avoir un compromis au niveau des performances, d'où ça va être le rapport, une fois de plus, entre du coût par kilowattheure, et là, ça demande finalement d'être confirmé. Donc voilà, si vous voulez, à peu près couvert en ces 6 heures ce que je voulais sur toutes ces batteries tout solides. Alors, pour terminer, eh bien, j'ai quelques transparents de messages ou de récapitulatifs. Donc voilà, c'était les aspects couverts durant ce cours. Je crois qu'on a couvert pas mal de matériaux, d'électrolytes, d'interfaces, des problèmes de pression, ainsi de suite. Et je dirais, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a eu pas mal de progrès au niveau de la recherche qui ont été effectués. Mais les verrous technologiques eh bien, restent encore très, très importants. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, chaque fois qu'on vous parle de tout solide, oui, c'est pour 2024, 2025, 2028 maintenant, 2032, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes réels pour faire des choses concrètes et surtout, je vais mentionner les problèmes au niveau interface, mais il y a tout l'aspect sécurité que je n'ai pas tellement traité cette année, peut-être que je le traiterai l'année prochaine. Alors ensuite, bien sûr, c'est la frénésie. Tout le monde veut s'y lancer. Ça, c'est la courbe que j'avais mis. Mais le temps de maturation, je dirais, est incertain. Malgré l'engouement, ça, ce n'est pas ce qui manque. La formation de consortiums, des investissements colossaux et des annonces constantes qui restent vagues. OK ? Alors pourquoi? Pour illustrer cela, eh bien je vais vous montrer tout simplement les activités juste de ces 2 derniers mois. Voilà directement, depuis le début de l'année, toutes les annonces que vous avez eues dans les batteries tout solides. Alors chacun bien, promet la merveille, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et sans arrêt, vous avez ici bien sûr QuantumScape, Cassie, Penson, et ainsi de suite. Alors la question, ce qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ces batteries tout solides sont une réalité? Qu'est-ce qui va se passer? Et oui. Alors, je vous ai parlé de cet engouement mondial. Eh bien, effectivement, il y a un engouement mondial et, je dirais, les grands continents commencent à se structurer sérieusement car ils croient que cette technologie va apporter un paradis. Alors, ces structures, eh bien, je vais vous illustrer. Voilà ici, finalement, au Japon où, et regardez les dates, hein, le 4-02-2022, il a été créé une plateforme qu'ils appellent LipTech avec, là aussi, le désir de, tout simplement, réunir les gouvernements, les académiques, les industriels autour d'un même projet et de travailler, je dirais, de concerto à développer cette technologie tout solide. Donc, si vous voulez, ça vous montre finalement la volonté de certains continents ou certains. Alors, bien sûr, je pourrais faire la même chose, et c'est encore plus récent. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez certainement dû lire ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer en Chine. Ça a été une plateforme où le programme d'innovation CACIP, qui a été créé le 21-01-2024, okay, nous devons nous préparer au risque de voir la technologie tout solide bouleverser notre futur. Et là aussi, vous avez tout simplement cette alliance entre les compagnies directement industrielles. Bon, je ne les ai pas toutes listées parce que c'est en train de se former, c'est peut-être pas toutes ne sont pas listées, mais vous voyez directement qu'il y a. Alors bien sûr, regardant cela, bien étant quand il y a un scientifique, je peux me dire, qu'est-ce qui se fait chez nous? Alors chez nous, bien sûr, je dirais, on est très piètre, si je peux dire. Quand vous voyez les initiatives, qu'est-ce qu'il y a, le RSE, ça fait déjà 12 ans. Bon, il y a un PEPR qui s'est lancé. Là aussi, ça n'a pas révolutionné le monde, je m'excuse. Et, alors, l'industrie, n'en parlons pas. L'industrie est tellement frileuse que si vous ne leur donnez pas la clé en main, vous n'allez rien voir. Alors, au niveau européen, bien, si vous voulez, il y a un projet franco-allemand, IPOBAT, ça fait 3 ans qu'on en discute, il va se lancer, je dirais, début 2024. Là, le kick-off n'est pas encore fixé. Il y a des projets Horizon 2030, tout solides, qui sont sur des thématiques différentes, mais il n'y a aucune fédération entre eux. D'où, finalement, l'esprit de collaboration qui devait être de mise, chaque pays veut jouer sa propre carte en Europe. Et c'est la difficulté. D'où j'espère, ma volonté, c'est que finalement, travailler séparément ne permettra pas de gagner la course aux batteries tout solides, d'autant plus que l'Europe n'a pas été à l'origine de cette technologie. D'où par conséquent, mon message, c'est qu'il va falloir travailler de concerto plutôt que chacun de son côté, et ainsi de suite. Sur ce, bien, je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.